Théophile Gautier, un texte de 1858, de la mode. Pourquoi l'art du vêtement est-il abandonné tout entier aux caprices des tailleurs et des couturières dans une civilisation où l'habit est d'une grande importance puisque, par suite des idées morales et du climat, le nu n'y paraît jamais? Le vêtement, à l'époque moderne, est devenu pour l'homme une sorte de peau dont il ne se sépare sous aucun prétexte et qui lui adhère comme le pelage à un animal, à ce point que la forme réelle du corps est de nos jours tout à fait tombée en oubli. Toute personne un peu liée avec des peintres et qui le hasard a fait entrer dans l'atelier à l'heure de la pause a éprouvé, sans trop s'en rendre compte, une surprise mêlée d'un léger dégoût à l'aspect de la bête inconnue, du batracien mâle ou femelle posé sur la table. Certes, une espèce inédite, rapportée récemment de l'Afrique australe, n'est pas plus imprévue et plus neuve au point de vue zoologique, et vraiment, une cage du jardin des plantes devrait être réservée à deux individus de l'un et de l'autre sexe appartenant au genre homo et dépouillés de leur peau factice. Ils y seraient regardés avec autant de curiosité que la girafe, les mânes, le tapir, l'ornithorynque, le gorille ou la sarigue. Seul, sans les admirables restes de la statuaire antique, la tradition de la forme humaine serait entièrement perdue. C'est en consultant ces marbres et ces bronzes, ou les plâtres moulés sur eux, et en les comparant aux modèles nus, que les artistes parviennent à reconstituer péniblement l'être idéal qu'on voit dans les sculptures, les bas-reliefs et les tableaux. Quel rapport existe-t-il entre ces figures abstraites et les spectateurs habillés qui les regardent? Les croirait-on de la même race, ou en aucune manière? Nous regretterons éternellement le nu, qui est le principe même de l'art, puisque l'homme ne peut concevoir de forme plus parfaite que la sienne, pétrie à l'image de Dieu. Le nu, qui était naturel sous le divin climat de la Grèce, dans la jeunesse de l'humanité, lorsque la poésie et les arts s'épanouissaient comme les fleurs d'un printemps intellectuel, a fait Phidias, Lysippe, Cléomène, Agacias, Agésandre, Apelle, Xuxis. Polyglotte comme plus tard il a produit Michel-Ange et les merveilleux artistes de la Renaissance, sous le nom de nu, nous comprenons la draperie, son complément obligé, comme l'harmonie et le complément de la mélodie. Mais déjà le nu n'était plus qu'une convention. L'habit était la visible forme de l'homme. Statuaires et peintres se plaignent de cet état de choses qu'ils pourraient non pas changer, mais modifier à leur avantage. Le costume moderne les empêche, disent-ils, de faire des chefs-d'œuvre. À les entendre, c'est la faute des habits noirs, des paletots et des crinolines, s'ils ne sont pas des Titiens, des Van Dyck, des Velasquez. Cependant, ces grands hommes ont peint leurs contemporains dans des costumes qui n'étaient aussi peu à paraître le nu que les nôtres, et qui, parfois élégants, étaient souvent disgracieux ou bizarres. Notre costume est-il d'ailleurs si laid qu'on le prétend? N'a-t-il pas sa signification, peu comprise malheureusement des artistes, tout imbu d'idées antiques? Par sa coupe simple et sa teinte neutre, il donne beaucoup de valeur à la tête, siège de l'intelligence, et aux mains, outil de la pensée ou signe de la race. Il maintient le corps à son plan et indique les sacrifices nécessaires à l'effet. Supposez Rembrandt face à face avec un homme de nos jours, en habit noir. Il concentrera la lumière, prise d'un peu haut, sur le front, éclairera une joue, baignera l'autre d'une ombre chaude, fera pétiller quelques poils de la moustache et de la barbe, frottera l'habit d'un noir riche et sourd, plaquera sur le linge une large touche de blanc paillé, piquera deux ou trois points brillants sur la chaîne de montre, enlèvera le tout d'un fond grisâtre, glacé de bitume. Cela fait, vous trouverez le frac du Parisien aussi beau, aussi caractéristique que le juste au corps ou le pourpoint d'un bourgmestre hollandais. Si vous préférez le dessin à la couleur, voyez le portrait de M. Bertin par M. Dingre. Les plis de la redingote et du pantalon ne sont-ils pas fermes, nobles et purs, comme les plis d'une chlamyde ou d'une toge? Le corps ne vit-il pas sous son vêtement prosaïque comme celui d'une statue sous sa draperie? La beauté et la force ne sont plus les caractères typiques de l'homme à notre époque. Antinous serait ridicule aujourd'hui. Le moindre cric fait la besogne musculaire d'Alcide. On ne doit donc pas orner ce qui n'a pas d'importance réelle. Il s'agit seulement d'éviter la lourdeur, la vulgarité, l'inélégance et le cacher le corps sous une enveloppe ni trop large ni trop juste, n'accusant pas précisément les contours, la même pour tous à peu de choses près, comme un domino de bal masqué. Point d'or, ni de broderie, ni de ton voyant, rien de théâtral. Il faut qu'on sente qu'un homme est bien mis, sans se rappeler plus tard aucun détail de son vêtement. La finesse du drap, la perfection de la coupe, le fini de la façon, et surtout le bien porté de tout cela, constituent la distinction. Ces nuances échappent aux artistes, du moins au plus grand nombre, amoureux des couleurs vives, de plis abondants, de draperies à cassures miroitantes, de torses aux pectoraux bien divisés, des bras aux biceps en relief. Ils regrettent que quelque jeune élégant n'ait pas le caprice d'une toque à plumes et d'un manteau écarlate, et ils s'étonnent de la persistance des gens du monde à garder un costume si triste, si éteint, si monotone. C'est comme si l'on demandait pourquoi à Venise toutes les gondoles sont noires. Cependant, rien n'est plus facile à distinguer dans l'uniformité apparente que la gondole du patricien de la gondole du bourgeois. Mais par exemple, si les artistes sont fondés en raison lorsqu'ils réclament contre le costume de l'homme, dont ils laissent l'invention au tailleur au lieu de le dessiner eux-mêmes, ils n'ont aucune objection plausible à élever contre le costume des femmes. S'ils allaient plus souvent dans le monde et voulaient se dépouiller de leurs préjugés d'atelier pendant une soirée, ils verraient que les toilettes de bal ont de quoi satisfaire les plus difficiles et que le peintre qui les traiterait d'une façon historique en y appliquant le style sans cesser pour cela d'être exact arriverait à des effets de beauté, d'élégance et de couleur dont on serait étonné. Il faut toute la force de la fausse éducation classique pour n'être pas frappé de l'aspect charmant que présente une sortie d'opéra, un cercle de femmes assises dans un salon ou causant debout près d'une console ou d'une cheminée. Jamais peut-être on ne s'est mieux coiffé. Les cheveux sont ondés, crépelés, nattés, relevés en ailes, rejetés en arrière, tordus en câble, avec un art vraiment merveilleux. Le peigne parisien vaut le ciseau grec, et les cheveux obéissent plus docilement que le marbre de Paros ou du Pentélique. Regardez ces beaux bandeaux noirs, décrivant leurs lignes pures sur un front pâle et pressé contre un diadème par une torsade qui part du chignon et s'y rattache. Cette couronne blonde où semble palpiter la brise amoureuse et qui forme comme une auréole d'or à une tête blanche et rose. Voyez avec quel goût se masse sur la nuque ses nœuds, ses boucles, ses tresses enroulées sur elles-mêmes comme une corne d'amont ou comme une volute de chapiteau ionien. Un sculpteur athénien, un peintre de la Renaissance, les disposerait-il avec plus de grâce, d'ingéniosité, de style? Nous ne le croyons pas. Nous n'avons parlé jusqu'ici que de l'arrangement même des cheveux qui serait, si nous arrivions aux coiffures proprement dites. Nous défions l'art d'inventer mieux. Tantôt ce sont des fleurs où tremblent des gouttes de rosée, ouvrant leurs pétales parmi des feuillages glauques, roux ou verts. Tantôt de souples brindilles qui descendent négligemment sur les épaules. Ou bien des sequins, des résilles de perles, des étoiles en diamant, des épingles à boules de filigrane ou constellées de turquoise, des bandelettes d'or nattées avec les cheveux, des plumes légères comme des vapeurs colorées, comme des arcs en ciel, des nœuds de ruban chiffonnés, feuillus comme des cœurs de rose, des lacis de velours aux gazillons lamés d'or et d'argent dont chaque cassure papillote aux lumières, des écheveaux de corail rose, de grappes d'améthyste, de groseilles de rubis, des papillons de pierres précieuses, des bulles de verre aux reflets métalliques, des élytres de bupreste, tout ce que la fantaisie peut rêver de plus frais, de plus coquet, de plus brillant. Et tout cela sans surcharge, sans excès, sans entassement grotesque, sans luxe ridicule, bien en harmonie avec l'air du visage et les proportions de la tête. La Vénus de Milo, si elle retrouvait ses bras, et si une femme du monde voulait lui prêter un corsage, pourrait aller en soirée, coiffée comme elle l'est. Quel éloge pour la mode de notre temps! Mais la crinoline, allez-vous dire, les jupes cerclées, les robes à ressorts qu'on fait raccommoder comme des montres par l'horloger lorsqu'elle se détraque, n'est-ce pas hideux, sauvage, abominable, contraire à l'art? Non, nous ne sommes pas de cet avis. Les femmes ont raison qui maintiennent la crinoline malgré les plaisanteries, les caricatures, les vaudevilles et les avanies de toutes sortes. Elles font bien de préférer ces jupes amples, étoffées, puissantes, largement étalées à l'œil, aux étroits fourreaux où s'engainaient leur grand-mère et leur mère. De cette abondance de plis qui vont s'évasant comme la fustanelle d'un derviche tourneur, la taille sort élégante et mince, le haut du corps se détache avantageusement, toute la personne pyramide d'une manière gracieuse. Cette masse de riches étoffes fait comme un piédestal au buste et à la tête, seules parties importantes, maintenant que la nudité n'est plus admise. Si l'on nous permettait un rapprochement mythologique dans une question si moderne, nous dirions qu'une femme en toilette de bal se conforme à l'ancienne étiquette olympienne. Les dieux supérieurs, en représentation, avaient le torse nu. Des draperies à plis nombreux les enveloppaient des hanches aux pieds. C'est pour cela qu'on doit, quand on s'habille, se découvrir la poitrine, les épaules et les bras. La même mode se trouve à Java, où l'on ne peut se présenter à la cour que nu jusqu'à la ceinture. Érudition et plaisanterie à part, une jeune femme décolletée, les bras découverts, coiffée, comme nous l'avons dit, et traînant après elle des flots de moire antique, de satin ou de taffetas, avec ses doubles jupes ou ses volants multiples, nous semble aussi belle et aussi bien costumée que possible, et nous ne voyons pas trop ce que l'art aurait à lui reprocher. Par malheur, il n'y a pas de peintre contemporain. Ceux qui paraissent vivre de notre temps appartiennent à des époques disparues. L'antiquité mal comprise les empêche de sentir le présent. Ils ont une forme de beau préconçue, et l'idéal moderne est lettre close pour eux. Une objection plus sérieuse serait celle de l'incompatibilité de la crinoline avec l'architecture et l'ameublement moderne. Lorsque les femmes portaient des paniers, les salons étaient vastes, les portes s'ouvraient à de larges battants, les fauteuils écartaient leurs bras, les carrosses admettaient aisément cette envergure de jupe. Les loges de théâtre ne semblaient pas à des tiroirs de commodes. Eh bien, l'on fera des salons plus grands, on changera la forme des meubles et des voitures, on démolira les théâtres. La belle affaire. Car les femmes ne renonceront pas plus à la crinoline qu'à la poudre de riz, autre thème de déclaration banale que ne devrait varier aucun artiste. Avec le sentiment d'harmonie qui les caractérise, les femmes ont compris qu'il y avait une sorte de dissonance entre la grande toilette et la figure naturelle. De même que les peintres habiles établissent l'accord des chairs et des draperies par des glacis légers, les femmes blanchissent leur peau, qui paraîtrait bise à côté des noirs, des dentelles, des satins, et lui donne une unité de ton préférable à ces martelages blancs de jaune et de rose qu'offrent les teints les plus purs. Au moyen de cette fine poussière, elles font prendre leur épiderme à un mica de marbre, et au tas de leur teint, cette santé rougeaude qui est une grossièreté dans notre civilisation, car elle suppose la prédominance des appétits physiques sur les instincts intellectuels. Peut-être même un vague frisson de pudeur engage-t-il les femmes à poser sur leur col, leurs épaules, leurs seins et leurs bras ce léger voile de poussière blanche qui atténue la nudité en lui retirant les chaudes et provocantes couleurs de la vie. La forme se rapproche ainsi de la statuaire. Elle se spiritualise et se purifie. Parlerons-nous du noir des yeux, tant blâmé aussi. Ses traits marqués allongent les paupières, dessinent l'arc des sourcils, augmentent l'éclat des yeux, et sont comme les coups de force que les maîtres donnent aux chefs-d'œuvre qu'ils finissent. La mode a raison sur tous les points. Qu'un grand peintre comme Véronèse peigne l'escalier de l'opéra ou le vestibule des Italiens, quand les duchesses du monde ou du demi-monde attendent leur voiture, drapées de burnous blancs, de cabans rayés, de camaris, d'hermines, de sorties de balles capitonnées et bordées de cygnes, d'étoffes merveilleuses de tous les pays, la tête étoilée de fleurs et de diamants, le bout du gant posé sur la manche du cavalier, dans toute l'insolence de leur beauté, de leur jeunesse et de leur luxe. Et vous verrez bien si devant son tableau, on parlera de la pauvreté de notre costume.